On va commencer à l'heure. On a un ordre du jour qui est assez conséquent. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être rendu disponible pour ce conseil municipal du mois de juillet. Tout d'abord, j'ai un pouvoir ce soir donc de Clément Robillard en faveur de Vincent Goyen. Je n'ai pas d'autre pouvoir. Je voudrais demander à Jean-Baptiste Laurendon s'il veut être notre secrétaire de séance.
Oui, sans problème.
Merci beaucoup. Je voudrais que le conseil municipal m'autorise à ajouter en ce début d'ordre du jour, enfin on le passera à la fin, mais pour que les choses soient déjà établies, m'autoriser à ajouter une délibération qui est liée aux travaux qu'on va engager certainement en fin d'année sur le centre-bourg quand l'immeuble sera en phase finale de construction. Donc c'est une délibération qu'on souhaite passer avec cette métropole. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc, on en parlera en fin de conseil, au même titre qu'on vous fera, on vous présentera une analyse des charges de personnel entre 2020 et 2025. Et ce sera Jean-Baptiste Rondon qui le fera. Voilà. Et puis, j'aurai une question diverse aussi à rajouter concernant le projet Leclerc à la Bargette. Et voilà. On va tout d'abord passer donc à l'approbation de la séance précédente, qui était la séance du mois de mai, c'est ça ? Mois de juin. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce procès-verbal ? Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? C'est adopté à l'unité. Je vous en remercie. Quelques décisions du maire pour commencer, comme habituellement. Il y en a un tout petit peu plus que l'autre fois, mais il n'y en a encore pas beaucoup. C'est tout d'abord, donc, en date du 5 juin, donc, c'est une décision très technique en matière budgétaire, portant en fait sur un transfert de chapitre à chapitre concernant donc un dépôt et cautionnement reçu de 500 euros. Ça concerne en fait une affaire avec un de nos policiers municipaux qui a eu contentieux avec une personne en fait suite, je crois, à une incivilité ou même autre chose, enfin quelque chose de peut-être encore un peu plus grave, mais ça remonte à pas mal d'années. Et donc, en fait, vous savez qu'on doit provisionner en fait un peu d'argent, justement, pour les frais du contentieux. Voilà. La deuxième décision, c'est celle du 16 juin. Donc, c'est un emprunt qu'on a contracté donc, de 95 000 euros auprès de la Caisse du Crédit Mutuel. Pourquoi 95 000 ? Vous allez me dire, ça paraît très faible. C'est simplement ce qui a été prévu donc, sur le budget principal voté par l'ancienne mandature pour équilibrer le budget. Et donc, on contracte avec le Crédit Mutuel pour une durée de 15 ans. C'est un taux de 3,80. On a voulu le faire maintenant, puisque les taux ont tendance à augmenter, pour figer le taux en taux fixe et permettre, en fait, de pouvoir le débloquer dans l'année. L'avantage, c'est qu'on a un an pour le débloquer. Ce sont des échéances constantes, mais un capital constant aussi. Le capital constant, c'est-à-dire qu'on paye le capital pendant toute la durée du crédit et ça nous permet de faire des économies sur les charges financières. Voilà, il y a des frais de dossier pour 95 euros. Le 17 juin, donc, on renouvelle avec Evolution 42, qui est une société de maintenance pour un photocopieur Konica. Donc, c'est des coûts à la photocopie. Ça coûte 0,005 hors taxe la photocopie. Et c'est pour 3 ans. Du 4 mai 2026 au 3 mai 2028. Donc, c'est tous des contrats de maintenance en fait, qu'on renouvelle à chaque fois et qu'on a souvent à l'ordre du jour de ces conseils municipaux. Je vous rappelle que le budget maintenance de la commune, c'est aux alentours de 140 000 euros. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'édition qui a été prise ? Je vous remercie. Ah, pardon. J'ai pas fait attention. Très bien. Donc, Pierre Perrin, donc. À donner un pouvoir à Philippe Chessac. D'accord. Merci. On va aborder maintenant différents sujets. Et le premier sujet, donc, c'est une convention de coordination entre notre police municipale et les forces de sécurité de l'État. Donc, je vais passer la parole à Albert Azoubel, donc, notre adjoint à la sécurité. Je voulais simplement faire une petite introduction par rapport à ça. Depuis notre arrivée, donc, on a eu de nombreuses relations avec la police nationale. C'est vrai qu'ils sont assez présents à nous solliciter pour nous rencontrer. Nous également, on les sollicite beaucoup au quotidien. Donc, il y a des rencontres qui sont tous les mois. Mais il y a également aussi, on va dire, tous les jours pratiquement, on a un rapport de la police nationale, ce qui nous permet de savoir un peu ce qui se passe sur notre commune, en dehors, en fait, des rapports que peut faire notre police municipale. Voilà, donc je passe la parole tout de suite à Albert Azoubel.
Merci Jean-Michel. Merci à tous d'être venus aussi nombreux pour mon anniversaire ce soir. Il n'y aura pas de gâteau, désolé. Pas de budget. Merci, merci, merci monsieur le maire. Merci les amis. Merci à l'opposition. Merci. Alors, cette convention communale de coordination, elle est signée tous les 3 ans. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est le préfet qui va signer, monsieur le maire, la procureure et le directeur interdépartemental de la police nationale. Cette convention va donc préciser, je vous fais un petit sum-up parce qu'il y a quand même 8 pages, la nature et les lieux d'intervention de notre police municipale. En aucun cas, on nous précise qu'elle ne peut effectuer des missions de maintien de l'ordre, telles que des manifestations avec boucliers, c'est pour la gendarmerie. Donc elle va définir la nature et les lieux d'intervention de la police municipale et de la police nationale. On nous dit dans cette convention que nous avons 4 agents dotés d'armes de catégorie B, de pistolets à impulsion électrique de catégorie D, bâtons télescopiques, aérosols d'autodéfense et de caméras piétons. Elle aura donc 2 types de missions, administratives et de police judiciaire. Je tiens à vous préciser que nos agents sont des agents de police judiciaire adjoints. Donc leurs pouvoirs sont limités par rapport aux agents de police judiciaire. Et enfin, vous aurez donc les modalités de la coordination. On insiste bien sur le CISPD, le Conseil intercommunal de la sécurité et de la prévention de la délinquance, qui, normalement, doit avoir lieu 1 fois par trimestre. Donc là, avec monsieur le maire, on va réactiver le CISPD. Dedans, donc, vous avez la ville de Villars, l'Étra, la Fouillouse, la Tour-en-Jarret et Saint-Éan. Ensuite, dans ce rapport, vous avez donc les interventions conjointes entre la police nationale et la municipale. Et il y a une évolution annuelle de cette convention qui doit être réalisée. Je tiens à préciser que dans le cadre de la pluricommunale que nous allons faire avec l'ETRA, donc, enfin, c'est M. Ayel qui va signer une convention avec la gendarmerie. Et Saint-Priest-en-Jarret signera également une convention avec la gendarmerie pour 3 ans. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la convention ?
Merci Albert. Bon, rajoutez quand même que vous le savez, on a déjà parlé lors des précédents conseils municipaux, on est sur un projet de Purico avec l'ETRA, donc il y a une police intercommunale. On est toujours en mutualisation avec Villars. Donc on a rencontré, je l'ai dit, pas mal de personnalités de la sûreté départementale, le directeur adjoint M. Rhin, mais également M. Giordano. On a organisé la soirée participation citoyenne, donc ex-voisin vigilant, donc qui a réuni 30 de personnes avec le lieutenant Patouillard. Voilà, donc il y a énormément de travail par rapport à la sécurité, puisqu'en fait la commune a évolué depuis 6 ans, c'est que, voilà, et on retrouve une commune avec certains quartiers où on commence à avoir quelques inquiétudes, et il faut absolument reprendre la main sur ces quartiers. Pour cela, on envisage de faire des nocturnes à notre police municipale. Et puis voilà, c'est aussi des élus au quotidien, mais également des référents de quartier qui sont présents. Et puis également des voisins vigilants, ex-voisins vigilants, des référents participation citoyenne qui ont aussi également un rôle à jouer qui nous apparaît important. Et en plus de ça, on a le système des caméras qui sont en place, donc qui nous permettent souvent non pas d'interpeller immédiatement les personnes, mais de visionner, et on l'a encore fait pour un fait qui s'est passé samedi soir au centre-bourg, donc visionner des délits qui peuvent être commis par des personnes. Et voilà, donc ça permet d'avoir une couverture qui est relativement importante et intéressante pour essayer de renforcer encore un peu plus la sécurité. Je rappelle que la Purico, ça va être 2 embauches donc de policiers qui seront managés par nos chefs de police ici. Donc ça va étoffer aussi notre police municipale. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Oui, Catherine, vas-y.
Bon anniversaire à Albert, bien sûr. Dans le programme, vous aviez parlé d'une embauche de policiers municipaux. Donc, en fait, c'est cette association avec l'ETRA qui sera votre embauche que vous aviez prévue dans le programme, ou est-ce que c'est prévu que dans les années à venir, sans doute, parce que là, en ce moment, c'est peut-être pas... Il y a quand même des policiers municipaux qui étoffent l'équipe.
Alors, dans un premier temps, déjà, on ne va pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. On vous présentera tout à l'heure un rapport, en fait, de la masse salariale qui a quand même fortement augmenté. Et donc, l'idée, c'est que dans un premier temps, on va embaucher ces 2 policiers municipaux qui seront managés par Frédéric Ayel, bon, qui vont couvrir l'ETRA et Saint-Priest-en-Jarret. Et dans un deuxième temps, on verra si on a les moyens d'organiser, de renforcer notre police municipale, sachant que l'objectif immédiatement qu'on aura avec la Pureco, c'est d'augmenter les amplitudes horaires, puisqu'aujourd'hui, ils finissent seulement à 19h, et on se rend compte qu'avec le temps qu'il fait, notamment au mois de juin, au mois de juillet, à part 19h, il n'y a plus personne à part nous, quoi. Alors on appelle souvent la police nationale, je pense qu'on a dû les appeler, depuis deux semaines, on a dû les appeler 7-8 fois. Heureusement, on a les élus enfin, couvrent la totalité de la commune. Donc à chaque fois qu'il y a un fait, l'élu qui se trouve sur place appelle la police nationale et nous appelle, nous, que ce soit Albert Azoubel ou moi-même, ou l'élu d'astreinte. Mais c'est vrai qu'il voilà, faut être extrêmement vigilant par rapport à l'évolution. On a des comportements qu'on n'avait pas il y a encore 6 ans. Ça s'est, je trouve, beaucoup dégradé et il s'agit de reprendre la main sur ces quartiers.
Mais quand tu parles d'embauche, c'est les tracks qui les embauchent. C'est notre management, mais c'est les tracks qui payent.
Nous, on va les manager, ils vont les payer et on va leur en plus facturer une quote-part de la direction, pour la direction, pour le management de notre policier municipal.
Ils auront un véhicule ?
Bien sûr. Hein. Donc, ils achètent un véhicule aussi.
D'accord.
Ils achètent un véhicule aussi. Voilà. Par contre, ils prendront leur poste à Saint-Prié, puisqu'en fait, on va agrandir le poste de police. On va reprendre un petit local qui se trouve, enfin une pièce de la poste, de la banque postale. Et donc, ça permettra en fait de prendre leur embauche ici. Et c'est vrai qu'une fois qu'ils seront à la main en fait, des différents maires, des deux maires, eux aussi d'aller sur les endroits les plus problématiques. Ça devrait permettre, et c'est ce qu'on a demandé aussi, la réflexion est en cours, pour augmenter les amplitudes, notamment l'été, puisque voilà, c'est des soirées qui sont quand même interminables pour les habitants. Et quelquefois, on est bien content d'avoir notre police municipale qui puisse travailler. Voilà.
Pardon Jean-Michel, ouais. J'ajouterai juste pour Catherine. Ils seront dotés du même équipement que nos policiers municipaux. Hein. Gilets pare-balles, armes de catégorie D, etc.
Sincèrement.
Oui, donc cette démarche qui avait été initiée dès 2025 avec le maire de Lettras est très satisfaisante, puisqu'en définitive, on récupère deux agents qui seront managés par notre chef de police. Ce qu'il faut quand même intégrer, c'est que le territoire à couvrir sera bien évidemment beaucoup plus grand qu'il ne l'était actuellement. Voilà. Donc c'est bien d'avoir deux policiers. Effectivement, ils pourront travailler par deux ou par trois, mais sur un territoire beaucoup plus grand.
Voilà. C'est vrai que c'est important ce qu'il a dit Albert Azoubel par rapport à la gendarmerie, puisqu'en fait, l'ETRA est sur une zone gendarmerie. Donc ça va permettre aussi d'avoir des contacts avec la gendarmerie. Ce n'est pas négligeable. Je ne sais pas si vous avez testé un jour d'appeler, par exemple, quand vous êtes à l'ETRA, vous appelez la police le 17, vous allez tomber non pas sur la police nationale, mais vous allez tomber sur la gendarmerie. Donc ça, c'est hyper important, parce que des moments, on a du mal un peu à se coordonner. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres prises de parole, je vous propose de passer cette convention aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc qui est pour ? Merci à vous, c'est adopté à l'unanimité, et c'est important qu'on ait des très bonnes relations avec la police national. On va ce soir désigner des membres de la commission d'appel d'offres. Une commission d'appel d'offres, c'est une commission qui est hyper cadrée en matière de réglementation, qui nous est demandée donc par le Code général des collectivités territoriales et son article L1411 alinéa 5. Et c'est une commission qui est obligatoire dans les communes de plus de 3500 habitants. Donc cette commission d'appel d'offres est censée donc étudier en fait les différents marchés publics que la commune peut passer avec des fournisseurs. Et il nous faut donc ce soir 5 membres titulaires, 5 membres suppléants. En fait, c'est un scrutin de liste. Donc moi, je vous présenterai une liste de titulaires et de suppléants. Est-ce que les autres équipes, enfin les autres listes, veulent présenter également une liste, ou est-ce que vous acceptez qu'on vous propose un titulaire et un suppléant ?
De notre côté, Clément Robillard, en tant qu'avocat, aimerait bien faire partie de cette commission, donc à voir s'il y a une place pour lui.
On est d'accord. Et éventuellement une suppléance.
Donc en
Clément en titulaire. Et un suppléant chez vous ?
Éventuellement, ou oui, on y va. Du vote. D'accord. Très bien. Alors, je propose en liste de titulaires donc Philippe Chessac, Cédric Sperandio, Blandine Déco, Jean-Baptiste Laurendon et Clément Robillard. En liste suppléante, je propose Albert Azoubel, Isabelle Michaud, Irène Perrard, Nadia Alloul et Christian Servant, sachant que je suis en tant que maire de fait président de la commission d'appel d'offres. Voilà, je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci d'adopter à l'unanimité. On continue avec des nominations, cette fois-ci pour la commission communale d'accessibilité, qui est là aussi nous est imposée par la loi. C'est la fameuse loi du temps de Jacques Chirac de 2005. C'est une loi sur le handicap, donc qui concerne en fait les communes qui comportent plus de 5000 habitants, donc on en fait partie. C'est l'article 46 de cette loi qui nous demande en fait de réunir et de nommer une commission d'accessibilité pour traiter justement ces problèmes-là, tant au niveau donc de l'accessibilité des bâtiments publics, mais également des commerces, de la voirie, des établissements de loisirs, de spectacles, etc. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse trouver cette commission, et on y ajoute, au-delà des élus, donc il faut qu'ils soient 8, voilà, on y rajoute des associations d'usagers, des associations représentant les personnes handicapées, et c'est donc le maire également qui la préside. Donc là, ce n'est pas un scrutin de liste, mais je proposerai donc dans les 8 représentants des élus, 2 places à l'opposition et 6 places donc pour la majorité. Est-ce que vous en êtes d'accord? Et qui veut faire partie de cette commission?
Claude Bruno, en ce qui nous concerne.
Il y a pas de... Tout le monde participe. Tout le monde participe.
Avec grand plaisir, mon ami Vincent Goyer.
Ah, Vincent Goyer. Très bien. Donc, je propose Pierre Perrin, Ganyaya, Xavier Lecoeur, Patricia Source, Yves Bonneville, Aurore Tessier, Claude Bruno et Vincent Goyer. Et donc... 8 personnes. Et après, donc, les associations, on a quelques associations en tête, notamment l'ADAPI, qui travaille beaucoup avec la mairie de Saint-Prier, mais également, on a une personne qui s'est proposée, je ne sais pas si Xavier en a eu sa réponse, en fait, quelqu'un qui... D'accord, c'est une personne donc non-voyante. Voilà, donc c'est important aussi qu'elle nous donne son ressenti par rapport à l'accessibilité. Et puis, il faudra aller chercher aussi des représentants d'associations, des personnes handicapées. Voilà. Je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? C'est adopté à l'unité. Je vous en remercie. Nous allons ensuite évoquer une passation. Alors, ouais, c'est une délibération qui vient en fait permettre donc à un élu de suppléer en fait le maire en cas d'impossibilité, d'incompatibilité ou même d'absence, pour pouvoir donc signer des actes authentiques, donc notamment auprès des notaires. Donc ce soir, nous devons désigner un adjoint qui puisse remplir ce rôle-là. Donc c'est tout ce qui est publication donc sur la publicité foncière, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés en la forme administrative par la collectivité. Lorsque le maire donc reçoit et authentifie l'acte, il ne peut pas représenter la collectivité, on ne peut pas être jugé parti. C'est pour cette raison aussi qu'il y a besoin en fait d'un adjoint qui puisse signer. Et je propose donc Blandine Déco, première adjointe, pour représenter la commune de Saint-Prix-en-Jarret pour ses actes authentiques. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? S'il n'y a pas d'autres candidats, je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie, c'est adopté à l'unanimité. Je vais laisser la parole, parce que j'ai beaucoup parlé, et je vais passer la parole à Philippe Chessac.
Oui, bonsoir à tous. Donc, on vous soumet aussi une désignation d'un représentant à SEM Soleil. Alors, SEM Soleil, c'est quoi? C'est en fait la société d'économie mixte sur la solidarité énergique innovation Loire. C'est quelque chose qui était déjà acté auparavant, et du fait du renouvellement du conseil municipal, on renouvelle cette chose-là. C'est dans le but d'investir dans le cadre des énergies renouvelables afin de garder une entière maîtrise publique dans ce domaine. Et les bénéfices dégagés sont utilisés en partie pour mener des actions d'économie d'énergie. Voilà. Par rapport à ça, nous avons décidé de désigner un représentant. Et en l'occurrence, il s'agirait d'Isabelle Michaud. Voilà. Est-ce que quelqu'un est contre cette nomination? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Qui est pour?
Merci. Donc Isabelle ira à Seine-Soleil. Voilà. Ensuite, toujours dans les élections de représentants, donc ça concerne Saint-Étienne Métropole. Donc c'est une commission locale d'évaluation des charges transférées, alors, dans le cadre des remontées de compétences. Donc il y en a eu énormément dans les années passées. Je pense que dans les années futures, il y en aura beaucoup moins, puisque les compétences maintenant obligatoires sont toutes remontées à la métropole. Et donc on nous demande donc de désigner deux membres pour cette commission locale d'évaluation. Et donc c'est des personnes qui seront appelées au cas où il y aurait des nouvelles remontées de compétences. Donc c'est plutôt des remontées qui concernent toutes les communes, mais ça peut être aussi, je pense à une certaine compétence qui s'appelle la publicité extérieure, donc qui pourrait éventuellement être remontée à Saint-Étienne Métropole de la part de la commune. Donc je propose ce soir, pour siéger cette CLET, Cédric Sperandio et Jean-Baptiste Laurendon. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette nomination? Pas d'abstention. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous repassons la parole à Philippe Chessac. C'est un sujet sur le ciel.
Oui, donc c'est concernant l'avenant à la convention GAE. C'est le groupement d'achat énergie. C'était déjà la commune était déjà partie prenante de cette entité. C'est pour en fait bénéficier d'achats groupés d'électricité pour la commune. Donc c'est aussi quelque chose qui est en lien avec le renouvellement de mandat. Et donc c'est juste de donner l'autorisation au maire de pouvoir adhérer et de signer tous les contrats nécessaires pour la bonne marche et d'avoir les meilleurs tarifs pour la structure de la commune. Qui est contre? Peut-être des questions? Oui, je ne sais pas. Après, excusez-moi.
Le nouveau président du ciel donc, est Olivier Joly, donc le maire de Saint-Just-en-Berg, qui a été élu à peu près il y a une quinzaine de jours. Voilà, il y avait deux listes, en fait. Et donc, le ciel, je rappelle, est sur notre commune. Il travaille beaucoup avec la mairie, on s'en a aperçu ces derniers temps, notamment au niveau de l'éclairage public. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué les relations qu'on pouvait avoir. Je pense que Christian Servande ne me contredira pas par rapport à ça, puisque voilà, il n'y avait pas forcément une hyper réactivité. Ils ont changé d'opérateur aussi. Bon, il faut souvent les appeler. Et j'espère qu'avec la nouvelle gouvernance du ciel, ça ira un petit peu mieux, mais c'est important qu'on reste avec le ciel pour ce groupement d'achat. Pas de questions, je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci à vous. C'est adopté à l'unanimité également. Alors, on va passer la parole à Julien Rivière, adjoint aux associations à la vie sportive et à la jeunesse.
Aujourd'hui, je vous présente, donc c'est une subvention pour le club d'escalade qui se trouve au gymnase Simone Veil. Ils ont fait une avance comme faisait chaque année auprès de Simone Veil, puisqu'ils jouissent des locaux pendant 32 semaines sur le mur d'escalade. Donc ils ont fait l'avance. On est là ce soir pour voter cette subvention à la hauteur de 2072 euros qui va malheureusement, je vous l'annonce, l'année prochaine augmenter à la hauteur de 2700 euros. Mais pour l'heure, c'est cela. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?
Alors, juste un mot par rapport à ça, je rappelle un peu l'historique de cette histoire. C'est dans le cadre en fait, du gymnase Nord, donc qui appartenait à une époque à la commune, qui était géré par un syndicat intercommunal qui s'appelait le CIGAL. Le CIGAL a été dissous puisque Saint-Étienne et plusieurs autres communes qui en faisaient partie ne voulaient plus participer, ne voulaient plus payer. Donc on s'était retrouvé un petit peu tout seul. Donc il a été décidé à l'époque, c'est moi qui ai pris la décision, avec le CIGAL, de céder en fait pour l'euro symbolique ce gymnase qui demandait beaucoup de travaux et beaucoup d'entretien à la région. Voilà, il s'était engagé à entretenir le gymnase et également à créer donc un une piste d'athlétisme. Donc finalement, ils ont fait mieux qu'une piste d'athlétisme, ça a mis du temps, mais ils ont créé carrément un complexe sportif plutôt de belle qualité. Et par contre, la contrepartie, c'est que nos associations qui utilisent encore, il n'y en a plus beaucoup, hein, il y a juste une escalade, ouais. Doit payer donc, à la région, donc indirectement au lycée Simone Veil, une location. Les discussions avec le Simone Veil ont été un peu ardues, puisqu'en fait, ils nous demandaient de doubler le loyer. Donc, on leur a dit, attendez, on arrive, c'est bon. Voilà, on a amené quelques arguments pour qu'ils limitent en fait leur augmentation donc de 700 euros pour passer de 2072 à 2700 euros. Voilà, et donc en fait, chaque année, on aura à passer cette subvention pour rembourser le club d'escalade qui n'a pas beaucoup de moyens et qui, voilà, et qui participe notamment au changement des cordes assez régulièrement, parce que les cordes, il faut les changer, je crois, tous les ans.
Et le nettoyage des prises.
Oui, pour nettoyer aussi les prises. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette subvention ? Donc ça vient en plus en fait, des subventions qui ont été votées, mais on reste quand même dans l'enveloppe globale.
Oui.
Voilà. Donc je vous propose de passer aux voix.
Qui est contre ? Qui est pour ? Qui s'abstient ? Voilà. Je ne l'ai pas fait dans le bon ordre, mais j'ai sauté une étape.
Et on va poursuivre avec Julien Rivière.
On va parler des cyclos. Cycloclub, donc il y a eu un petit souci, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec le minibus. On devait leur prêter un minibus, ils n'ont pas pu. Donc du coup, ils ont loué un minibus, ils ont fait une avance pour leur sortie. Donc du coup, c'est une subvention à la hauteur de 300 euros.
Oui, c'est une réservation qu'ils avaient faite sur l'autre mandature, donc qui avait accepté en fait de louer leur minibus. Le minibus, le seul souci, c'est qu'on pensait avoir le nouveau. Puis finalement, le nouveau est arrivé 8 jours après qu'ils soient partis, et comme ils allaient à 110 km en Ardèche, bon, il avait été dit que le minibus actuel ne pouvait pas faire plus de 30 km aller-retour. 30 km aller, 30 km aller-retour, puisqu'en fait, c'est un minibus quand même qui était ancien, et donc il n'y avait pas de risque réel, mais quelque part, en matière d'entretien, voilà, c'était un peu compliqué d'aller aussi loin. Donc c'est pour cette raison qu'on leur a dit de louer un minibus dans le privé. Ils ont payé un peu plus que 300 euros, je crois que c'est 300 et quelques euros. Mais on leur octroierait ce soir, si vous êtes d'accord, une subvention de 300 euros.
Mais c'était un bon prix,
le minibus. Un excellent prix, parce qu'ils ont eu ils ont eu un fourgon qui était beaucoup plus grand, donc beaucoup plus pratique. Et c'est vrai que c'était une promo qu'il y avait et dont on leur a fait bénéficier. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Donc ça reste encore dans l'enveloppe globale. Des subventions d'associations. Donc, je vous propose de passer aux voix, monsieur.
Oui, on y va. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je le fais dans le bon ordre. On y va.
Merci, Julien. On va passer la parole maintenant à Cédric Sperandio, donc adjoint aux finances, qui va nous parler de comptabilité publique.
Bonsoir à tous. On a une petite présentation, normalement. Frédéric, vous l'avez ou pas ? J'avais pris un peu son PowerPoint, je l'avais envoyé. Voilà, on juste rappeler ce qu'est le RBF, un règlement budgétaire et financier. Donc en fait, c'est une obligation depuis que nous sommes passés à ce qu'on appelle au plan comptable M57. Voilà, donc on est passé en 2024. Donc il y avait déjà une actualisation, enfin la mise en place d'un RBF lors d'une délibération fin 2023 pour mettre en place ce règlement budgétaire et financier, qui est une obligation dans le cadre, je vous l'ai dit, de la mise en place de l'instruction budgétaire et comptable M57. Donc simplement, c'est un document, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'était au moins vous faire une présentation un peu pédagogique, qui rappelle toutes les règles de procédure comptable des finances publiques, les différentes méthodes, et puis qui cherche à faciliter la gestion pluriannuelle, ainsi qu'établir une culture financière commune et partagé à l'ensemble de la collectivité. Le dernier ABF, je vous l'ai dit, il a été voté en décembre 2023, suite au passage des finances de la commune dans l'instruction budgétaire M57. Et à toute nouvelle mandature, avant la première décision budgétaire qui aura lieu normalement à la rentrée en septembre avec les premières décisions modificatives, on doit mettre en place un règlement budgétaire et financier, comptable, qui est normalement valable toute la durée du mandat. Alors si par contre, au cours du mandat, on a des modifications à faire, eh ben, on revotera ces modifications, on vous représentera un RBF actualisé un prochain conseil municipal. Voilà, et puis en synthèse, hein, parce que vous avez le document sous les yeux, simplement vous dire la différence qu'il y a entre le RBF 2024 et le RBF 2026, les principales modifications. On a la date d'entrée, bien entendu, puisqu'on a un nouveau RBF, donc RBF 2026, qui se met en œuvre à partir de ce conseil municipal. On va instaurer ce qu'on appelle une lettre de cadrage budgétaire qu'on peut retrouver dans différentes collectivités territoriales, c'est-à-dire qu'avant de lancer le processus de la construction du BP, du budget primitif 2027, on va envoyer, rédiger un courrier, une lettre de cadrage, on appelle, qu'on va envoyer à tous les chefs de service et les élus, les adjoints délégués, leur expliquant la procédure budgétaire, s'il y a des contraintes budgétaires particulières, les règles qu'on veut mettre en œuvre, par exemple maintien de la masse salariale, maintien des dépenses de fonctionnement 0,11, etc., etc. Voilà ce qu'on appelle une lettre de cadrage. Effectivement, on peut également, alors ça c'est marqué, c'était pas marqué dans le précédent RBF, mettre un ratio de perspective budgétaire, c'est-à-dire on fait, par exemple, on limite les frais de fonctionnement, le 0,11 par exemple, à plus 3%, où on demande à chaque service de faire moins 3 ou moins 7. Voilà, ça peut arriver. Moi j'ai vécu ça dans d'autres collectivités territoriales et c'est la règle. Ça ne veut pas dire qu'on va le mettre en œuvre, mais en tout cas, c'est une possibilité qu'on se donne dans le RBF. On met en œuvre aussi, ce qui n'était pas le cas précédemment, ce qu'on va appeler des rencontres d'arbitrage budgétaire, c'est-à-dire que les services précédemment faisaient remonter leurs propositions budgétaires d'abord en investissement et après en fonctionnement. Donc on va continuer sur ce process-là, mais on permettra aux services et avec les élus délégués de rencontrer la direction générale, le maire, les élus ressources pour discuter de leur budget. Et si jamais il y a des décisions qui est de dire on ne prend pas cette dépense ou là, celle dépense ou une autre dépense, pardon, on leur dira. Voilà. C'est-à-dire parce que des fois on peut avoir un retour au service, il y a des décisions qui peuvent être prises, d'arbitrage, qui ne sont pas toujours comprises. Donc là, c'est qu'on puisse donner la possibilité aux services et aux élus de défendre leur budget entre guillemets, sachant que l'idée générale, c'est quand même d'avoir un budget équilibré, bien entendu. Nouveauté aussi importante, on a une obligation maintenant de passer en secours. Alors, c'est un peu technique, mais ce qu'on appelle le compte financier unique, le CFU. Donc, avant, on avait ce qu'on appelle le compte administratif et les comptes de gestion. Le compte administratif était réalisé par les services, le compte de gestion plutôt par les services de la trésorerie, du trésor public. Il y avait des croisements et lorsqu'on vote le compte administratif et le compte de gestion, on votait et on délibérait sur deux délibérations, sur une délibération, acceptant le compte administratif et le compte de gestion. Aujourd'hui, on va passer au CFU, c'est-à-dire qu'on n'aura qu'un seul document, le compte financier unique, document unique, et en fait, il y aura des allers-retours avant de vous présenter le budget entre les services de la ville et le trésor public pour vous présenter un CFU qui a déjà été, disons, validé de manière technique par le trésor public. Et puis, pour terminer, en principale modification, on le verra tout de suite après, on formalise dans le RBF, ce qui n'était pas le cas avant, un calendrier budgétaire qu'on précise un petit peu sur différentes étapes pour rappeler le cadre de fonctionnement et les différentes étapes de la construction du BP 2027 aux services et aux élus. Après, on a quelques détails qui sont nouveaux dans le nouveau RBF, c'est-à-dire là purement les engagements comptables, etc., mais c'est des modifications minimes. Et juste pour le calendrier budgétaire, il y a le vote aujourd'hui, effectivement, du RBF, avec une première acte modificative qui aura sûrement lieu à la rentrée. Là, l'étape prochaine, c'est effectivement, on va demander à tous les services et avec leur élu délégué de travailler sur le projet d'investissement, ensuite de travailler sur les constructions d'enveloppes de fonctionnement. Tout ça est transmis par les services et on aura donc à partir de mi-janvier 2027 des arbitrages budgétaires, maire, élu, DGS, avec les services et les adjoints délégués. On a bien entendu, comme habituellement, le vote du ROB, puis la préparation du budget primitif et le vote en conseil municipal avant le 15 avril 2027. Voilà. C'est le calendrier qui est indiqué, qui est un peu plus détaillé sur le RBF, vous l'avez vu. Mais on vous le présente ici de manière synthétique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions particulières ?
Si c'est vrai, je rajouterai juste une date à ce calendrier. C'est le 8 octobre, donc on va réunir la première.
Alors oui, alors j'ai oublié de le dire. Effectivement, il y a la commission, bien vu, la commission consultative. Alors je ne l'ai pas indiqué là. La commission consultative finance, qui est aussi intégrée au calendrier. Et donc, on la fixe au jeudi 8 octobre. au soir à 19h. Donc on invitera les membres de la commission, les membres élus et les membres extérieurs. Monsieur Servant.
Oui, vous disiez qu'il n'y avait pas de concertation avec les services sur la montée en puissance des budgets, c'est faux. Bien évidemment, il y avait une approche globale sur l'ensemble des dépenses de fonctionnement, des formulations de besoins en fonctionnement et en investissement, un pré-arbitrage, et après, bien sûr, c'était négocié avec les services en les associant aux décisions.
J'entends ce que vous dites, et vous avez raison de compléter, monsieur Servant. Alors après, ce que nous, ce qu'on a la possibilité, en plus, voilà, c'est de faire une rencontre entre les élus, les services concernés, plus la direction générale, les adjoints aux ressources et le maire éventuellement pour pouvoir débattre de ça. Voilà.
Merci Cédric. On va faire un spécialiste quand même. Merci, c'est assez clair. Moi, j'aurais rien d'autre à ajouter. C'est vrai que voilà, c'est important. Voilà, les finances, on aura l'occasion d'en reparler en questions diverses qu'on vous présentera le bilan de la masse salariale.
On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ?
Donc merci.
Merci. Vous adoptez à l'unanimité.
Donc, tu gardes la parole, je crois ?
Oui. Frédéric, si vous pouvez, il y avait dans la même présentation, c'est à la suite. L'institution de la taxe sur la vacance des locaux d'habitation, TVLH. Voilà, donc on a une présentation un peu synthétique, pareil, pour être un peu pédagogique, parce que c'est très technique, hein, Frédéric. Puis j'en profite pour remercier les services, notamment les services finances, bien sûr, avec Béatrice Bayard. Donc juste pour vous dire, j'ai oublié de compléter. Alors en introduction tout d'abord, la taxe sur les vacances, sur la vacance des locaux d'habitation entrera en application au 1er janvier 2027. Donc elle remplace ce qu'on appelait la TLV et la THLV. Voilà, donc c'était des taxes sur les logements vacants. On avait deux dispositifs, la TLV, taxe aux locaux vacants, ce qu'on appelle en zone tendue, je vous expliquerai après ce que c'est, et la THLV, taxe d'habitation sur logements vacants en zone non tendue. C'est-à-dire qu'au niveau national, on a certaines communes qui sont en tension de logement. Ça peut être le cas, par exemple, sur la région de Annecy, sur la Côte d'Azur, sur la région parisienne. Donc, il y a des zones particulières où ce qu'on appelle, il y avait une taxe qui était mise pour le logement vacant, que ça s'appelle TLV. Et pour les zones non tendues, dont on fait partie pour Saint-Prix-en-Jarret, il y avait une taxe qui s'appelait THLV, taxe d'habitation sur le logement vacant en zone non tendue. À partir du 1er janvier 2027, au niveau national, ce n'est pas que pour Saint-Prix-en-Jarret, bien entendu, on a une taxe unique qui s'appelait taxe de vacances sur les logements d'habitation, la TVLH, qui unifie ces deux régimes. Alors, en détail, donc pour les zones non tendues, donc Saint-Prix-en-Jarret, il est nécessaire de délibérer avant le 1er octobre, donc c'est pour ça qu'on délibère aujourd'hui, pour pouvoir mettre en œuvre cette taxe pour l'année 2027. Voilà, on a une obligation, si on veut la mettre en œuvre, c'est facultatif en zone non tendue. En zone tendue, c'est obligatoire, c'est-à-dire que la TVLH est obligatoire, c'est-à-dire que les communes n'ont pas à délibérer. Hein. Si elles veulent l'appliquer, elles l'appliquent obligatoirement, puisque effectivement il y a une tension sur les logements. En zone non tendue pour Saint-Brieuc-en-Jarret, c'est une volonté d'équipe municipale de pouvoir mettre en œuvre cette taxe de vacances sur les logements d'habitation. Concernant le taux qu'on va appliquer, ça fera l'objet d'une autre délibération qu'on devra voter avant le 15 avril de l'année concernée, donc avant le 15 avril 2027. Donc on va travailler effectivement sur les perspectives et hypothèses de fonctionnement pour calibrer le bon taux qu'on peut appliquer. Et en zone non tendue, le taux maximum qu'on peut appliquer, c'est un taux à 50% sur la taxe de vacances sur les logements d'habitation. Alors, pour les biens immobiliers, donc il y a effectivement, est considéré comme vacant d'un point de vue fiscal, on vous l'a mis, lorsqu'il est à usage d'habitation, il est non meublé ou meublé de manière insuffisante pour permettre une habitation convenable, équipé des éléments de confort de base, une installation électrique, l'eau courante, des équipements sanitaires, etc. Donc, très bêtement, par exemple, on aurait un garage, ce n'est pas considéré comme un logement vacant, bien entendu. Et puis, il est libre de toute occupation depuis une certaine durée, depuis 2 ans. Alors, en matière de taxes de vacances sur les logements d'habitation, le législateur définit les conditions d'exonération suivantes. C'est-à-dire, vous n'avez pas un logement vacant sur la commune. Normalement, il rentrerait dans la taxation avec un taux qu'on votera à la rentrée ou avant le 15 avril 2027. Donc, pour pouvoir l'appliquer, il ne faut pas que le logement ait été occupé plus de 90 jours consécutifs au cours de l'année. La vacance est involontaire. C'est-à-dire que le propriétaire justifie que la vacance ne dépend pas de sa volonté. Par exemple, vous avez un appartement, vous le mettez en vente au prix de marché. Hein. Si vous mettez en vente hors prix du marché ou un prix du marché excessif, ce n'est pas considéré comme, comme une vacance habituelle, on va dire. Voilà. Le logement social n'est pas considéré comme un logement vacant, bien entendu. Hein. Les bailleurs sociaux présents sur la commune, bah, c'est un logement vacant, bah, ça ne rentre pas, ils ne sont pas taxés. Et puis, dépendance du domaine public. Nos locaux à nous, par exemple, hein, municipaux, font pas partie, sont pas taxés, sauf hors logement, domaine privé des collectivités. Si on a des appartements, par exemple, au niveau de Saint-Prix-en-Jarret, qui sont vacants, on pourrait être taxé et payer une taxe pour nos propres logements, taxe qu'on perçoit. Voilà. Voilà. Alors, la différence aussi par rapport à les deux taxes précédentes, en zone tendue, la taxe était prélevée, je crois, par l'État et rentrait dans les finances de l'État. Et la taxe sur les zones non tendues arrivait directement sur les finances des collectivités territoriales. La nouvelle taxe, taxe de vacances sur les logements d'habitation, sera perçue à 100% par la commune de Saint-Priest-en-Jarret.
Oui. Merci Cédric.
Catherine, oui, Mme Basile. Il y a des questions ? Oui.
Question, les gens qui... parce que 2 ans, c'est très court quand même. Il y a des gens qui vont en EHPAD, par exemple, tu vois, et les familles peuvent pas vendre, machin, truc, enfin, donc qui sont dans vacances. Ma question surtout, là-bas, c'est, vous avez pu voir à peu près combien ça représente sur Saint-Priest ? Et la question est aussi, pourquoi ? Pourquoi la mettre en place? Quel est l'intérêt pour la commune? Bon, toucher des sous, vous allez me dire. Mais ça représente quoi, tu vois? Et comment, alors, vous allez voir si c'est vacant? Vous allez faire une enquête policière?
Pardon?
Comment vous allez trouver les habitations vacantes? Vous allez, alors, faire des enquêtes, dénonciations? Comment ça va se passer?
Alors, dénonciation, je ne sais pas. Ça, c'est dans votre déclaration d'impôt. Normalement, vous devez déclarer vos logements. Donc, c'est au déclaratif de la part de la personne fiscale, hein, en tout cas connue des impôts. Donc, c'est la déclaration. Voilà, donc avec votre logement. Voilà. Pourquoi mettre cette taxe? C'est pour avoir la possibilité de l'appliquer. Après, il faut qu'on travaille sur le taux. Hein, c'est un deuxième temps. On va d'abord travailler sur fixer cette taxe. L'État nous donne la possibilité de le faire, donc on le fait. Je vais être très franc aussi. Il faut qu'on essaye de générer des ressources complémentaires pour la commune. Voilà, parce qu'on sait qu'on est tendu au niveau de nos ressources financières, que ce soit au niveau fiscal en particulier. Voilà, donc nos marges de manœuvre sont très limitées. On sait qu'on a un taux de masse salariale important et supérieur à la strate de la commune, à la strate des communes de même taille. Voilà, donc on essaye de maximiser nos recettes. C'est une première réponse. Voilà, donc on ne dit pas qu'on y va avec plaisir pour fixer cette taxe, mais c'est important qu'on puisse la mettre en œuvre pour pouvoir avoir le moyen, effectivement, de collecter. Au niveau de l'estimation, c'est un peu ça, Madame Basile, hein, au niveau de l'estimation. Donc elle est très théorique, hein. On a une taxe qui existe déjà, hein, qui est sur les résidences secondaires, hein, voilà. Donc on a eu, Frédéric Billon nous a donné l'estimation de la recette, la dernière recette, c'était 24 000 euros. Il y a déjà cette taxe sur les résidences secondaires qui existe, qui est à hauteur de 24 000 euros. Là, au niveau de l'estimation de la recette, c'est compliqué à le faire, parce qu'en fait, elle est basée sur la valeur locative cadastrale de l'appartement. Donc on a regardé les prévisions de l'INSEE, enfin les statistiques de l'INSEE qui datent de 2022. On a sur la commune plus de 3500 logements et on en a 253 dits vacants. Voilà. Après, il faut qu'ils rentrent dans le cadre de la vacance telle que désignée sur les règles qui permettent d'appliquer la TVLH. Si on a 253, alors je vais faire une estimation en gros, hein, 253, on va dire que la valeur locative cadastrale du bien immobilier, alors ça peut être 1000 ou 2000 euros, on va mettre 2000 euros. Donc 253 logements dits vacants à 2000 euros, ça fait... 506 000 euros. Si on met un taux maximum, parce que le taux maxi qu'on peut mettre, c'est 50%, donc on va arriver à une maximisation de la recette potentielle à 253 000 euros. Voilà, donc ça, c'est très théorique. Parce que dans les 253, il n'y aura peut-être que 5-10% qui seront concernés par la taxe. Et après, ça va dépendre du taux qu'on donne. Alors peut-être qu'on s'est compliqué de le savoir maintenant parce qu'on n'a pas encore les déclarations des administrés, des foyers fiscaux présents sur la commune. Alors, il y a quand même un intérêt à mettre en place cette taxe, indépendamment de la question de la recette financière. L'intérêt, elle est aussi par rapport au marché immobilier. Voilà. Donc, ça permet aussi de remettre éventuellement ou d'inciter certains propriétaires à remettre des biens sur le marché de la location, voilà, ou de la vente. Ça permet aussi peut-être à certains propriétaires, alors bien sûr, il faut pouvoir le faire, hein, ça, c'est sûr que c'est un peu ça, ça, c'est une autre problématique, mais ça permet aussi à certains de se dire, ben, faut, ça incite aussi à faire des travaux pour rendre ces logements un peu plus salubres qu'ils pourraient être, etc., etc. Voilà, donc ça aussi, normalement, on espère que ça aura un impact sur éventuellement les logements vacants sur la commune qui pourraient être mis à la location ou à la vente de personnes en recherche de logement sur la commune. Et c'est aussi important pour nous, et on le sait tous, d'attirer de nouvelles populations sur la commune de Saint-Priest-en-Jarret.
Vous mettrez en place une commission pour dire lui il est taxé, lui il n'est pas taxé, etc. Parce qu'il faut quand même que les gens puissent avoir un recours. Des moments, ce n'est pas que les papiers qui donnent les infos.
Alors, ce n'est pas nous qui allons instaurer que c'est taxable ou pas taxable. C'est les impôts qui vont dire par rapport à la déclaration de l'administré, est-ce que ce logement rentre dans le cadre ou pas.
Vous allez automatiser cette taxe.
Après, au niveau des recours, on ne les connaît pas encore parce qu'on ne connaît pas le faux.
Alors, déjà, on a nommé il y a quelque temps en fait, une commission des impôts directs. En fait. C'est certainement à travers cette instance qu'on va pouvoir donc étudier les différents logements vacants. Pour répondre à votre question, moi, j'y vois deux intérêts. Premier intérêt, on est quand même une commune très attractive. Alors, on n'est pas en zone tendue, comme au terme administratif du terme, mais néanmoins, on est assez attractif. Donc, voilà, si on peut attirer un peu plus de population, même si on veut arrêter aussi un peu de construire un peu dans tous les sens, l'idée, c'est que les logements qui sont vacants puissent être occupés par des habitants. La deuxième chose que je vois très intéressante aussi, c'est que souvent, on est interpellé, notre police municipale, mais également les élus. Ah ben moi, mon voisin, il est plus là, quoi. Il habite plus là. Donc, ça peut être une inquiétude pour le voisinage. On a une ou deux maisons qui sont comme ça. Il y a une maison, d'ailleurs, qui est bien connue sur la commune, qui n'a jamais été habitée depuis 25 ans, qui est une superbe villa, en plus, avec un super terrain qui est mal entretenu. Et en fait, le voisinage, c'est une nuisance en fait pour eux. Et l'idée, justement, je ne dis pas que systématiquement quand on appliquera cette taxe-là, ça va être dissuasif pour les propriétaires, mais néanmoins, voilà, il y aura quand même un peu de coercition pour pouvoir en fait inciter les gens, soit à l'habiter, soit à la louer. Voilà. Et puis aussi, la dernière chose, c'est que si qui dit logement vacant dit squat possible. Voilà, parce que on n'est pas aussi sur une autre planète. C'est vrai qu'on a des squats un peu partout à Saint-Étienne. L'idée, c'est qu'on n'en ait pas à Saint-Priest, quoi. Voilà pourquoi on veut introduire cette taxe. Et bien entendu, c'est aussi pour les finances de la ville. Mais il ne faut pas s'attendre non plus à les chiffres qui sont annoncés par Cédric. C'est vrai qu'on aimerait bien les avoir. Mais bon, voilà, si on arrive à capter 20 ou 25 000 euros, ça sera bien le grand maximum. Mais c'est les petits rues qui font les grands fleuves. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas d'autres questions Oui, pardon, François Chant.
Alors, si au bout de 2 ans, oui, alors c'est la question que tu poses, hein, donc avec 3 ans. Donc effectivement, au bout de 2 ans, effectivement, éventuellement. Voilà. Donc après, la question, c'est que est-ce que l'appartement peut être prêté, loué, voilà, c'est aussi un peu ça.
C'est oui, mais c'est une entrée d'argent, mais c'est toujours aussi un petit peu les mêmes qui payent. Donc là, le petit papy qui devra payer, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui pour payer sa maison de retraite, devra en plus payer une taxe. Peut-être qu'il garde sa maison pour pouvoir donner un héritage à ses enfants, qu'il a payé une maison qu'il a payée toute sa vie.
Monsieur Servant.
Oui, je voulais revenir sur 2 points. Alors déjà, effectivement, cette notion... Les 250 logements vacants sur la commune, je crois qu'on en avait déjà discuté il y a longtemps. Le critère des 2 ans échus n'était pas dans ce critère de présélection. C'était à une date donnée les logements vacants. Je pense en particulier à des logements sociaux. Donc ceux-là seront exclus.
Oui, tout à fait.
Donc parce que le logement vacant, il y en a, ça m'étonnerait qu'il y en ait 250 sur la commune.
Alors ils sont référencés tels quels au niveau de l'INSEE. On est bien d'accord, on n'est pas à dire. On vous donne un nombre potentiel parce qu'on ne les connaît pas. Voilà.
Ce chiffre-là, on le connaissait. Après, il faut voir effectivement les différents critères qui permettront de mieux apprécier. Après, si c'est une taxe qu'on met en place, les impôts vont la recouvrer en fonction des critères qu'on aura déterminés. Ce n'est pas je paye ou je ne paye pas mes impôts. Donc, en fait, une personne, comme évoquait M. Chor, en maison de retraite et qui serait au bout de 3 ans taxé, ben, le recours, ça sera de peut-être essayer de justifier, faire un recours amiable. Mais mécaniquement, les impôts, ils vont mettre en place. C'est comme toutes les taxes aujourd'hui qui recouvrent. Ça m'étonnerait que ce soit de la compétence de la commission départementale, parce que cette commission, en fait, elle sert uniquement à définir la taxation à venir sur la typologie des logements.
Pour amener un peu d'éléments aussi par rapport au placement en EHPAD, pour bien connaître le secteur d'activité, puisque j'y travaille, une durée moyenne de séjour en établissement pour personnes âgées aujourd'hui, c'est entre 2 ans et 6 mois et maximum 3 ans. Et on est plutôt sur 1 an et demi pour les établissements privés à but lucratif. Voilà, donc c'est simplement aussi pour préciser ça, mais c'est une moyenne nationale et c'est des chiffres qui sont largement vérifiables. Alors je ne dis pas que c'est la raison pour laquelle il faut le faire, mais en tout cas, dans la piste de réflexion, bah oui, malheureusement, en effet, aujourd'hui, les placements en établissement, la France, on a une très longue espérance de vie, mais une très mauvaise espérance de vie en bonne santé. Et malheureusement, le virage domiciliaire qui est pris aujourd'hui par l'État français bah, fait que les gens rentrent relativement très tard en établissement et en général, ils restent peu longtemps aussi.
Merci. Alors, Jean-Baptiste. Un complément, non, juste par rapport à la remarque, par rapport à la personne éventuellement qui rentre en EHPAD. Voilà, donc au niveau des textes, je me serai vérifié. Hein, le logement dans la vacance est indépendant de la volonté du contribuable. Travaux lourds, procédures, raison de force majeure notamment, à vérifier si les personnes effectivement qui sont placées en EHPAD par contrainte, entre guillemets, pour les raisons médicales, sont concernées ou pas.
Je pense qu'on a été très complet sur ce sujet-là. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci, c'est adopté à la majorité. Nous allons donc poursuivre ce conseil municipal. Et donc, on va parler d'une mise à disposition d'un personnel municipal au profit de notre école de musique. Et la parole est à Jean-Baptiste Lorandon.
Oui, alors en effet, ce soir, on vous propose une convention de mise à disposition, donc c'est des choses qui sont voilà, relativement classiques, pour la mise à disposition d'un agent sur l'école de musique de Solor. Voilà, donc la durée de la mise à disposition est d'un an par rapport à cette convention. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Une mise à disposition qui existe depuis.
Oui, simplement une reconduction de l'existant. Hein. Je crois que ça fait 4 ou 5 ans que.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Ouais, plutôt 7 et 8 ans. Alors, je propose de voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc il nous reste donc une délibération donc qu'on a rajoutée à l'ordre du jour en tout début de séance. Donc je vais passer la parole à Philippe Chesnac.
Oui, bonsoir encore à tous. Donc en fait, la délibération spéciale, ça concerne l'aménagement du centre-bourg qui va être lié à la livraison du programme immobilier le Clos Marguerite. Il y a donc un projet de réfection de voirie et surtout d'aménagement autour de cet immeuble qui va être programmé. Et donc l'idée, c'était en lien avec Saint-Étienne Métropole en ce qui concerne la voirie, c'était qu'on puisse avoir, nous, la maîtrise d'œuvre. Parce qu'en gardant la maîtrise d'ouvrage, ça nous laissait plus de temps pour pouvoir mettre en place, faire les appels d'offres et rencontrer les entreprises et démarrer les travaux, plus à notre convenance. Donc nous avons rencontré la responsable de Saint-Étienne Métropole par rapport à ça, avec qui on a pu débattre et qui a accepté de nous donner cette possibilité d'être maître d'œuvre. Pour reprendre, vous l'avez, je pense, la délibération sous les yeux, pour reprendre quelques chiffres, le coût total estimé est d'environ 715 000 euros. Sur ces 715 000 euros, Saint-Étienne Métropole, à travers, bien sûr, notre enveloppe voirie, hein, qui est dédiée à la commune, prendrait en charge 305 000 euros. 22 000 euros pour les études, les financements du projet et puis 283 000 euros pour les travaux de voirie. Le solde serait bien sûr à la charge de la commune en ce qui concerne les espaces verts, tout ce qui est, on va dire, zone de piétonne, et puis la réfection un petit peu des choses qui sont autour, notamment sur le lieu où est actuellement le bar tabac et qu'il faudra réhabiliter. Est-ce que quelqu'un a des questions ?
C'est ce qui s'appelle les coups partis, puisque l'immeuble, oui, donc, il est en construction maintenant depuis plus d'un an et demi. Bon, on se doit en fait de rendre une place aux habitants. Et ben, comme vous le savez, quand on est sur le domaine public, et ben, bien entendu, le promoteur donc, va s'arrêter en fait à sa partie privée. Il y a néanmoins certains aménagements qu'on lui a demandé, notamment l'une des façades de la mairie là, qui aujourd'hui est bah, dans un sale état puisque suite à la démolition de la salle de l'atelier et donc ils se sont engagés à payer en fait ce mur végétalisé qu'on voudrait installer. Et puis aussi une petite information aussi, derrière ce bâtiment il existait une espèce de traboule entre la mairie et le bâtiment. Et après réflexion avec Philippe Chessac et avec les services, on s'est dit que ça pourrait être plutôt une contrainte pour les habitants de voir passer du monde chez eux, de voir éventuellement stagner bon, les gens qui viendront fumer ou voilà, qui n'auront peut-être pas forcément un objectif très, très, très sympa pour les habitants qui se trouvent autour. Donc on va condamner cette partie-là. Et on va faire quelque chose d'arboré et tout au moins végétalisé. Voilà un peu pour ce projet-là. On vous présentera lors d'un prochain conseil municipal, une fois que l'étude est en cours, mais également on vous présentera le projet pour que vous ayez une idée de ce qui peut être réalisé sur ce site-là. J'espère qu'on aura des bonnes surprises, mais j'y crois pas trop en matière de budget, puisqu'en fait on est parti sur une estimation, et j'espère qu'on aura un peu moins à dépenser. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette convention ?
Alors, sur la convention, on est le même nom, hein, c'est très bien, allons-y. Vous avez la confirmation que le bar reste au rez-de-chaussée de l'immeuble, et est-ce qu'il aura une terrasse si c'est
non. Alors, il va être effectivement intégré dans le clos Marguerite, mais par contre, il aura une terrasse qui sera limitée que sur ses ouvertures, donc qui sera très limitée.
Plus la terrasse ou avec la mairie?
Alors,
peut-être,
il y a justement une réflexion globale qui va être faite justement sur le tenant où il est actuellement, où on a l'intention de faire un lieu un peu convivial qui soit à la fois utilisé par le tabac et aussi pour les habitants qui puissent venir s'asseoir, se mettre un peu à l'abri quand il fera un peu chaud et pouvoir avoir un lieu qui soit agréable et qui sera en partie aussi végétalisé, puisqu'on va pouvoir dédier un peu plus un périmètre important en réduisant un peu de voirie pour limiter la circulation et surtout la vitesse qui peut être dans le centre-ville et surtout, je dirais, le stationnement qui est un peu anarchique. Et pour éviter toutes ces problématiques, on a une réflexion globale sur cette partie de réaménagement.
Et de faire quelque chose de sympa.
Et sans être dispendieux, hein, c'est-à-dire qu'on a déjà eu des liens avec différentes communes, hein, Chambon-Feugerolles, hein, qui a déjà fait un peu ce genre de pergola, on va dire, mais avec des choses simples et qui finalement sont assez sympathiques. L'idée, c'est pas de faire des choses qui nous coûtent très cher, puisque malheureusement, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre, mais de faire un aménagement qui soit quand même assez important et pour que tous les gens puissent s'y retrouver et avoir une partie qui leur puisse être s'installer tranquillement. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'idée de pouvoir dédier cette partie.
Philippe Chessac, s'il y a d'autres questions, je propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc c'est adopté et limité. Alors, il nous reste un sujet qu'on va vous présenter donc derrière moi, qui concerne en fait une analyse qui a été effectuée par Jean-Baptiste Laurendon en lien avec les services. Donc je remercie Jean-Baptiste et je le félicite d'ailleurs, parce qu'il y a un gros travail qui a été fait. Et je remercie les services pour les infos qui ont été données. Alors vous allez voir que la situation ne peut pas paraître préoccupante, mais je ne vais pas effleurer le sujet tout de suite et je passe tout de suite la parole à Jean-Baptiste Lerandon.
Merci. J'en profite aussi pour remercier les services, remercier Frédéric et puis Béatrice Bayard qui m'ont transmis les éléments et m'ont fait un retour aussi par rapport à cette étude. Alors pourquoi cette étude ? Étant en charge sur les délégations RH, ça me paraissait important de savoir de quoi on parle, évidemment. Donc l'état des lieux qui a été fait, il a été fait principalement sur la masse salariale, mais vous le verrez également sur d'autres indicateurs RH. Voilà pourquoi on a fait cette étude, simplement puisque ça a été décrié plus d'une fois, on est souvent amené à le rappeler en conseil municipal où les dépenses de personnel représentent environ 35% des dépenses réelles de fonctionnement, donc c'est bien au-dessus de la strate par rapport aux autres communes. Après, moi j'ai tendance à dire, et c'est ce que j'ai rappelé plusieurs fois aussi pendant la campagne municipale, on est aussi une commune de services. On a beaucoup de services qui sont déployés sur la commune. Donc, qui dit avoir des services, dit forcément avoir des agents. Moi, je salue aussi le travail des agents au quotidien, puisqu'on a quand même des agents qui font beaucoup de choses en régie. L'idée, c'est d'avoir une présentation qui soit relativement objective ce soir. Pourquoi on a fait cette étude aussi ? Simplement puisque la Chambre régionale des comptes avait quand même identifié un certain nombre de points de vigilance. Donc l'idée, c'était de pouvoir voir si c'était toujours d'actualité aujourd'hui et de pouvoir nous permettre, sur la période des 6 ans à venir, de pouvoir travailler sur ces sujets-là. Et puis d'avoir des indicateurs de pilotage qu'on sera amené à suivre régulièrement, évidemment, d'année en année. Au niveau de la source et des données, pour obtenir des données et des résultats fiables. Donc j'ai procédé de cette manière-là. Les services m'ont transmis des journaux de paye. Donc c'est vraiment les extractions des éléments variables de paye en fait qui sont ressortis et qui vont permettre d'avoir une analyse qui est réalisée à partir de plusieurs éléments, mais principalement des rémunérations brutes qui sont versées aux agents et évidemment des cotisations patronales. Et au niveau des traitements que j'ai pu réaliser, l'évolution d'abord de la masse salariale, c'est le point le plus important, je pense, l'analyse des effectifs rémunérés, l'analyse des heures rémunérées, des analyses également qui ont été faites par catégories statutaires, donc les catégories ABC au niveau des agents, et puis un calcul de courts moyens sur les heures rémunérées qui ont été faites. Évidemment, l'ensemble des données ont été retraitées, consolidées, afin de pouvoir avoir des indicateurs qui sont homogènes sur l'ensemble de la période, pour pouvoir évidemment avoir une comparaison la plus fiable possible. Évidemment, il y a des variations, j'essaierai d'en expliquer certaines. N'hésitez pas à m'interpeller si jamais vous avez besoin. Alors on passe au cœur de la présentation, donc l'évolution de la masse salariale. Donc évidemment, vous le voyez au niveau du graphique, une évolution sur les 5 ans importante quand même de la masse salariale, puisqu'entre 2020 et 2025, on a une évolution globale de la masse salariale de 589 000 euros, donc environ 11,5%. Donc quand j'évoque masse salariale, c'est salaire brut plus les cotisations patronales. Sur cette période, les salaires ont progressé de 10,30%. Et les cotisations patronales de 14,69%. Donc on voit qu'on a une part, on va dire, plus importante d'évolution des cotisations patronales. Toutefois, on a 10,30%, donc 380 000 euros d'évolution des salaires bruts. Alors au niveau de l'évolution de ces salaires bruts, on va avoir un détail ici sur cette slide-là par période entre 2020 et 2025, donc avec une évolution de 1,49% entre 2020 et 2021, 4,16% entre 2021 et 2022, 2022-2023 2,39%, 2023-2024 2,35% et une diminution de 0,23% en 2025. Donc l'évolution sur les salaires bruts sont passés de 3 611 000 à 3 991 000, donc une augmentation de 379 000. La plus forte évolution, elle est observée entre 2021 et 2022, en lien avec différentes mesures de revalorisation. Évidemment, en fonction, on a plusieurs contraintes compte tenu de l'évolution des rémunérations, c'est-à-dire qu'il y a des évolutions qui sont conventionnelles, indiciaires, et puis on a des évolutions qui sont notamment des évolutions liées aux primes, on le verra par la suite, qui sont des évolutions qui sont choisies. Donc en 2025, les salaires baissent légèrement, moins 0,23% par rapport à 2024. Alors, il faut observer les chiffres, on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut, mais là, l'idée, c'est d'être objectif et d'être transparent avec vous. Il faut observer, évidemment, cette diminution au regard des heures travaillées, des heures rémunérées, ce qui s'est passé en 2025, fin d'année 2024. On avait un pool de remplacement jusqu'en 2024, et ce pool de remplacement a été externalisé. Donc évidemment, on va le voir par la suite, on avait moins d'agents, et donc qui dit moins d'agents, dit moins aussi de masse salariale. Je crois qu'on a, sur ce pool de remplacement qui a été externalisé, on a un montant qui a été versé à hauteur de 280 000 euros pour l'année 2025. Donc il faudrait rajouter ces 280 000 euros en fait, à la masse salariale si on voulait comparer des choses à peu près comparables. Alors au niveau de l'indice et de son évolution, donc l'idée c'est de voir qu'est-ce qui a pu influencer, les facteurs qui ont influencé sur cette évolution de masse salariale. Au niveau de l'indice, on a une évolution de la valeur annuelle du point d'indice. Donc autrement dit, c'est-à-dire qu'à effectif constant, à grade identique, tous les agents ont vu augmenter leur rémunération. Et donc c'est une évolution d'indice qui représente 5,05% sur la période entre 2020 et 2025. Avec une valeur de points de 56,232 à 59,073. On a également une autre évolution qui est ce qu'on appelle le GVT, donc le glissement vieillesse technicité. Le GVT représente l'avancement d'échelon, les promotions, les changements de grade, l'ancienneté. Après neutralisation du point d'indice, donc des 5,05% que j'ai évoqué juste avant, au niveau du GVT, on a une évolution naturelle, j'allais dire de plus 154 043 euros. Donc, ce qui représente 7,81%. Autre évolution également, c'est sur les primes et les indemnités qui ont été versées. Au niveau de ces primes, on regroupe plusieurs choses. On regroupe le 13e mois, on regroupe le RIFSEP. Donc, RIFSEP, on va retrouver ici le CIA et l'IFSE. Donc, c'est l'ensemble des primes qui sont versées aux agents et également les astreintes. Et donc, on a une évolution entre 2020 et 2025 des primes et des indemnités qui sont passées de 772 000 euros à 1 million 3. Une augmentation de 29,94% avec des évolutions, vous le voyez, qui sont variables en fonction des années, donc plus 3%, plus 6%, plus 3%, plus 10,29%. Et plus 318%, la progression elle est régulière sur l'ensemble de la période, avec des hausses qui sont comprises entre 3,32 et 10,29%. L'augmentation la plus marquée entre 2023 et 2024, avec une hausse de 90 000 euros. On a constaté pour les agents qui ont eu le plus d'évolution en matière de rémunération, jusqu'à 50% d'évolution des rémunérations entre 2020 et 2025. Alors, au niveau de l'évolution des effectifs rémunérés, alors attention là aussi, un chiffre, il faut être vigilant par rapport aux chiffres sur les effectifs rémunérés, sur le nombre d'agents rémunérés. Dans les agents, on a des agents qui sont contractuels, donc là aussi, c'est pas forcément un indicateur qui est hyper parlant puisque ça va dépendre des heures rémunérées plutôt. Donc moi, je préfère comparer en heures, mais ça donne quand même une idée sur le nombre d'agents rémunérés. Évidemment, par exemple, sur le centre social, on a des agents qui sont en contrat et donc on peut avoir, en fonction des durées des contrats et des périodes de l'année, plus ou moins de contrats, donc plus ou moins d'agents rémunérés. Globalement, on a en moyenne, vous voyez, entre 230 et 240 agents entre 2020 et 2024. Et une baisse importante en 2025, moins 26 agents. Et donc, c'est ce que j'évoquais jusqu'à maintenant, c'était les besoins en matière de remplacement étaient assurés en interne, on va dire, depuis 2024, c'est-à-dire qu'on internalisait ce process-là. Et il a été externalisé, je crois, depuis septembre 2024 par un prestataire qui s'appelle Alliance RH. Donc, évidemment, on a réduit finalement le nombre d'agents rémunérés. Mais en ligne de charge, budgétairement parlant, on a ajouté le montant que je vous évoquais tout à l'heure, donc à savoir 280 000 euros. Alors l'évolution des heures rémunérées, donc c'est là le plus parlant pour moi. L'évolution des heures rémunérées, donc c'est les heures qui sont effectivement payées. Donc on a un volume global d'heures rémunérées qui diminue progressivement sur la période, donc passant de 227 000 937 heures rémunérées à 209 813, donc soit une baisse de 18 100 heures, donc moins 7,9%. voilà, cette diminution, elle confirme que la baisse de la masse salariale en 2025, elle est liée davantage à une réduction des effectifs plutôt que du volume de travail rémunéré. Donc évidemment, forcément, on a moins d'effectifs, donc on a moins d'heures rémunérées aussi. Donc on a un effet qui est plus important. Toutefois, sur la période, on va avoir, et c'est ce que j'indique un peu en conclusion, on va avoir un effet ciseau, c'est-à-dire qu'on baisse les heures rémunérées et on augmente parallèlement la masse salariale. Donc c'est-à-dire que voilà, naturellement, évidemment, on a une masse salariale qui progresse malgré les effectifs qui se réduisent. Au niveau du coût horaire rémunéré, là on a un coût moyen sur les salaires bruts hein, qui sont versés. Je n'inclus pas ici les cotisations patronales. Donc vous le voyez, en fonction des heures rémunérées, on a un coût moyen qui augmente naturellement puisqu'on passe de 16,22 € en moyenne à 19,44 €. Donc on a une progression de 19,8%. Cette évolution est sensible et puis elle se rapproche de l'évolution globale de la masse salariale. Au niveau des catégories, on a les catégories A qui présentent le coût horaire le plus élevé avec une moyenne de 29,90 € par heure rémunérée contre 20,7 €. Et puis au niveau des catégories B et C, sont des catégories évidemment où le coût horaire rémunéré est moins important. Alors au niveau de l'évolution des effectifs, alors cette fois-ci, un indicateur qui est un petit peu plus parlant sur l'évolution des effectifs, c'est l'évolution des effectifs au 31 décembre. Donc le nombre d'agents présents au 31 décembre. Donc on avait en 2020 160 agents et on a en 2025 139 agents. Donc les effectifs de la collectivité sont arrêtés chaque année au 31 décembre. Entre 2020 et 2021, on a plus de 7 agents et les effectifs sont restés stables entre 2022 et 2021-2022. Et on a une diminution de 21 agents, donc moins de 13%. Donc cette tendance, elle traduit plutôt une politique de réduction des effectifs avec une baisse qui s'est accélérée évidemment sur les trois derniers exercices et surtout sur la dernière année puisque comme je vous l'ai dit, évidemment on a ce pool de remplacement qui n'a pas été, reconduit. Donc en conclusion par rapport à ce rapport sur l'analyse, on a une masse salariale qui progresse de 11,5% alors qu'on a des effectifs qui diminuent. Donc cette tendance elle illustre l'effet ciseau que j'évoquais tout à l'heure. On a un coût moyen par agent qui augmente, qui continue d'augmenter sous l'effet de plusieurs facteurs. Je voulais évoquer les facteurs endogènes et les facteurs exogènes. Il y a le glissement en vieillesse, il y a des revalorisations statutaires, il y a des primes qui sont versées par les collectivités, il y a des augmentations de SMIC. On va avoir aussi des fois des contraintes réglementaires. Ça m'a été très justement rappelé par les services, mais on a par exemple en 2022 un bonus d'attractivité qui a été voté par la CAF. Donc on avait pour l'ensemble des agents sur la petite enfance 100 € net par mois qui ont été attribués. On a sur les auxiliaires de puéricultrices un reclassement qui a été effectué en catégorie B, et au niveau des éducatrices de jeunes enfants, on a un reclassement également qui a été fait en catégorie A. Donc à chaque fois que vous avez des reclassements ou des mesures, on va dire, qui sont prises comme ça à l'échelle nationale, inévitablement on a un surcoût en termes de masse salariale. Le point important pour nous, et je crois que ça a été souvent rappelé au moment de la campagne, c'est de se dire que c'est un indicateur qui est hyper important, en tout cas sur les dépenses, ça s'imprime en jarret. Ça représente 65% de la masse salariale, du budget, au niveau de la masse salariale, mais c'est important de le suivre. Donc c'est vrai que quand on se rabâche un peu certainement quand on a à prendre des décisions, mais quand on dit qu'au niveau du budget on est relativement contraint, c'est vrai, on est relativement contraint, et donc il faut qu'on soit très vigilant sur cette gestion de masse salariale. Je crois que c'est une gestion de bon père de famille qu'on essaye d'avoir, et c'est un peu la même logique dans tous les, comme dans toute entreprise aujourd'hui. Évidemment, je crois que les services, ils veillent au grain aussi. On est aussi contraint par un marché, c'est-à-dire qu'en termes de recrutement et de fidélisation des professionnels, faut être sensible à ça. C'est-à-dire qu'on a la chance à Saint-Priest-en-Jarret d'avoir plutôt des équipes qui sont stables. Il faut réussir à continuer d'attirer, on va dire, des personnes et des agents, et surtout les fidéliser. Et en même temps, il faut surveiller cette évolution de masse salariale et rester relativement vigilant par rapport à ces évolutions. Et en même temps, au niveau des services, voilà, il faut aussi faire de la pédagogie sur les remplacements. Voilà, c'est des choses qui sont faites régulièrement, mais voilà, on a aussi des besoins, je pense notamment aux services techniques, voilà, qui nous sollicitent sur les besoins en matière de remplacement notamment. On évoquait tout à l'heure le sujet de la police municipale avec la création d'un poste. Voilà, donc on est vigilant sur ces éléments-là, parce que finalement, la masse salariale, elle augmente, vous le voyez, elle augmente beaucoup. Donc il faut rester très vigilant sur cette gestion de masse salariale et voilà, ne pas créer, on va dire, évidemment, des postes à tout va. Donc on va essayer, voilà, grâce à cette analyse, d'être le plus précautionneux possible. Je reste à votre disposition si jamais vous avez des questions.
Merci Jean-Baptiste. Si on peut rallumer, s'il vous plaît. Oui, on peut le féliciter, parce que c'est vrai que c'est un travail qui est important, qui est précis, qui est objectif, qui nous fait faire une économie aussi par rapport à un audit extérieur. Hein, puisque voilà, certains avaient annoncé un audit extérieur, et clairement, cet audit-là, il pouvait être très bien fait par les services, que je remercie aussi. Alors, c'est peut-être sans doute la dernière fois où on parle du bilan, en fait, du précédent mandat. Hein. Et c'est vrai qu'on avait fait le bilan et vous avez donné en toute transparence la situation financière de la commune. Ça, c'était au mois d'avril. Ça démontrait en fait que les marges étaient réduites, on le savait déjà. Et surtout qu'il fallait aussi, au niveau des investissements, par rapport aux deux dernières années qui avaient été très importantes en matière d'investissement, avec deux grosses opérations, donc sur l'espace loisir de la Bargette. Le complexe sportif de la Bargette et également l'école Jules Verne. Voilà, à noter que sur l'école Jules Verne, on vient d'apprendre qu'on va perdre 124 000 euros de subventions, donc ça, c'était pas budgété, puisque Saint-Étienne Métropole donc, nous a refusé de prendre en charge de quelques factures. Donc il va falloir qu'on vote lors du budget modificatif un surplus de dépenses de 124 000 euros. Voilà, juste un mot par rapport à cette analyse. C'est vrai que moi, j'ai reçu pas mal de leçons de gestion financière pendant la campagne. Je rappellerai simplement, quand je suis arrivé en mairie, moi, j'ai pas pu faire les salaires parce que j'avais plus assez d'argent pour faire les salaires. Il y avait plus d'argent. Quand j'ai laissé la mairie, bon, même s'il y avait encore des difficultés, j'ai laissé la mairie plutôt dans une bonne situation financière. Les bras m'en sont pas tombés, comme une personne a pu en dire dans l'équipe de Clément Robillard. Clairement, on démontre aujourd'hui que la commune reste en difficulté compte tenu de ce masse salarial qui a beaucoup évolué, qui malheureusement en fait a trop évolué en matière de primes. Et c'est pour cette raison que les mesures qui ont été prises dès aujourd'hui, dès qu'on a eu le rapport, c'est que sur cette année-là 2026, on va geler les primes IFSE. C'est un coût de 53 000 euros. C'est pas neutre. Et on va marquer en fait une rupture avec la gestion précédente. C'est marqué aussi un courage politique de le faire, même si c'est vrai que les agents, ils n'y sont pas pour grand-chose. Mais en tout cas, il est le temps d'arrêter en fait de continuer à verser des primes alors qu'on n'en a pas les moyens. Voilà ce qu'on voulait dire ce soir au niveau de ce rapport. Est-ce que vous avez des questions ? Christian Sarrant.
Vous doutez bien que je ne peux pas rester silencieux. Il faut arrêter de verser des primes alors qu'on n'a pas les moyens. La première mesure que vous avez prise, c'est d'augmenter les indemnités des élus. C'est un autre problème. Vous avez dit, M. Landon, qu'on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Moi, je peux vous prendre les mêmes chiffres et vous faire une autre présentation. C'est vrai que dans ces augmentations, ce n'est pas nouveau, on le sait, 65%, les coûts que représente l'ensemble des frais de personnel sur un budget global. Il faut savoir aussi que, et vous l'avez dit, la valeur du point, c'est l'État. On l'applique. Les déroulements de carrière, c'est automatique, on l'applique. Vous avez oublié d'évoquer l'augmentation de 3 points des cotisations employeurs décidées par l'État sur 4 ans, qui fait 12 points de cotisation de plus, ce qui représente environ 400 000 euros. Il faut les assumer, l'État ne nous a pas remboursé. Donc après, effectivement, la seule marge de manœuvre qui reste, ce sont les primes. Je ne pense pas, ça n'engage que moi, hein, puisque c'est moi qui l'ai signé, que nous ayons été particulièrement généreux au niveau des primes. Les primes, les IFSE ou les CIE en particulier, reconnaissent l'investissement de chaque agent. Et vous l'avez dit, on a des agents très investis, très compétents. On n'a jamais fait du remplacement systématique, mais il y a des domaines, par exemple, chez les auxiliaires de puériculture, où on a un quota de présence impératif. Donc s'il y a des gens absents, il faut les remplacer. Ce n'est pas pour le plaisir de recruter. Et je voudrais finir sur ce recours à un prestataire extérieur. dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, ils avaient mis en lumière le fait qu'à l'époque, on avait un pôle de remplacement. C'était des gens en situation précaire qui étaient en contrat horaire et qu'on appelait en fonction de nos besoins. La conclusion de la Chambre régionale des comptes, c'est de dire ces gens-là, ou vous les dégagez ou vous les titularisez. Et donc, on aurait dû, si on l'avait fait, titulariser une dizaine de personnes. Donc, les axes qui ont été mis en place, et depuis 2014, où j'étais adjoint aux ressources humaines, ça a été de travailler sur les effectifs. Et ça, c'est constaté, les effectifs baissent. Pour autant, les charges et les salaires augmentent. Alors, vous pourrez toujours faire une année blanche au niveau des primes. Vous pouvez même mettre tous les CIA à zéro et diminuer les primes si vous voulez. C'est un autre problème, si vous voulez. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les marges de manœuvre au niveau de la gestion du personnel sont effectivement très réduites.
Oui, merci. Merci Christian Servant pour ces précisions. En effet, sur la quatrième slide, j'ai présenté en effet les évolutions de cotisations patronales qui ont augmenté de 14,70% et qui représentaient 200 000 euros. Donc en effet, j'en ai bien parlé, mais vous avez raison, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. On a quand même une marge de manœuvre au niveau des primes. L'idée au niveau des primes, c'est aussi de valoriser le travail qui est fait et d'avoir un levier managérial. Et c'est vrai qu'on a une délibération qui date de 2019 concernant l'attribution des IFSE qui, il me semble, est très bien faite. Et l'attribution des coefficients de 0,1 point doit être, à mon avis, davantage justifié aujourd'hui pour permettre d'expliquer des évolutions en matière de primes et de versement de primes.
Pas d'autres prises de parole. Je vous remercie. Je vais vous parler du dossier donc de Leclerc. Je voudrais quand même vous rappeler l'agenda des prochains futurs conseils municipaux. Donc, ça sera les mercredis encore, 23 septembre, 4 novembre et 16 décembre. Donc, on se retrouvera pas avant le 23 septembre. Donc, juste un mot par rapport au projet d'agrandissement en fait et de développement, on va dire des surfaces commerciales. Donc de Leclerc, donc porté par M. Le Petit. Donc un dossier avait été déposé sur l'ancienne mandature, non pas d'un point de vue urbanistique, mais plutôt d'un point de vue économique. Mais comme il y a un agrandissement, il y a un dossier urbanistique qui est tombé. Et puis également une CDAC donc, qui a dû se réunir compte tenu que l'augmentation des mètres carrés était supérieure à 1000 mètres carrés. Donc on partait de 5000 mètres carrés environ à 7000 mètres carrés. Donc ce dossier est passé tout récemment en CDAC, c'était la semaine dernière. Donc la CDAC n'a pas voulu se prononcer compte tenu que M. Le Petit donc, a décidé, après bien entendu discussion avec la mairie, de retirer son dossier. Plusieurs points d'échoppement. Premier point, c'était qu'il crée une surface de parapharmacie avec un médecin de 350 mètres carrés. Bon, clairement, ce sont des commerces en fait qui sont des commerces assez attractifs pour la population, mais qui néanmoins sont très impactants, d'une part pour les pharmaciens, et puis également qui a la vider aussi un peu plus notre centre-ville, alors que l'objectif du centre-ville, c'est quand même d'essayer de garder un petit peu de monde sur le centre-ville, et notamment les commerçants. Il y a également un centre optique donc, qui devait être créé. Donc là, c'était une autre problématique par rapport à la CDAC. Quand on est dans le cadre des grandes surfaces, en fait, il faut qu'on crée des cellules qui sont de minimum 300 mètres carrés. Et l'opticien, c'était 150 mètres carrés, donc ça ne passait pas. Donc normalement, il y aura une nouvelle discussion donc, avec M. Le Petit, puisque moi, je l'ai émis en CDAC. On est absolument favorable en fait à son développement. Il est clair que quand il a racheté ce magasin, il était dans un piteux état. Il a su le remonter, il a su le reconstruire, il a su développer son activité. Il a embauché énormément de monde, hein, puisque aujourd'hui, je crois qu'il y a 150 personnes qui travaillent au Leclerc. Donc c'est un acteur économique qui est important et auquel on tient beaucoup. C'est simplement essayer de travailler avec lui sur un nouveau projet en fait qui serait un peu moins impactant pour les commerces existants sur la commune. Et donc on le verra dans les prochaines semaines. Mais je voulais à ce stade-là vous donner donc cette information-là. Voilà.
Est-ce que tu as des nouvelles concernant le commerce en face de la boulangerie Tchiravel, là où il y avait la banque avant? Et est-ce que vous avez pu qui est vide, hein, le Crédit Agricole?
Crédit Agricole, c'est Irène Perard qui est dessus, c'est ça, hein? Oui. Tu veux pas le racheter, non?
Non. Alors, le Crédit Agricole, j'ai appelé le propriétaire et le Crédit Agricole paye encore le loyer jusqu'à, alors je ne sais plus si c'est septembre ou fin d'année. Alors, il n'était pas pressé de de le mettre en location. Et j'ai donné ces coordonnées à plusieurs personnes qui cherchaient un local. J'ai donné pour qu'ils se mettent en lien. Alors, pour le moment, je n'ai pas de suivi.
Voilà, donc c'est un commerce, j'espère qu'il va pouvoir être repris. Le souci, c'est que c'est le prix du loyer, je crois qu'il est de... Oui, enfin, là, une partie 2005, mais il y a une autre partie aussi qui n'était pas utilisée par le Crédit Agricole. Je crois qu'il y a un loyer au global qui doit être autour de 3 500 ou 4 000 euros. Donc c'est vrai que pour mettre un commerçant ici, ça va être compliqué. Ça sera peut-être des professions libérales de santé hein, qui pourront être intéressées. En tout cas, voilà, c'est un commerce en fait, qui aujourd'hui est malheureusement fermé. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Christian Serrand.
Depuis quelques jours, on voit fleurir les bandes jaunes sur le secteur de la clinique du Parc et du Charponnet, dont acte. Ça structure notre territoire. Et je pense que cette décision prise de façon rapide aurait pu nécessiter un débat en conseil municipal. Ça structure évidemment la circulation, le stationnement. Et ma deuxième réflexion, c'est que j'espère que les règles que nous sommes chargés d'appliquer, la loi, et de la faire respecter, seront bien respectées sur tous les stationnements qui seront illicites.
C'est un projet que les gens attendaient depuis 6 ans. Hein. Enfin, je le dis comme ça, hein, parce que c'est vrai qu'on a eu nos réunions de quartier, notamment dans ce quartier du Charpenais, mais également ailleurs, hein, où les gens en ont ras-le-bol. Ils en ont ras-le-bol parce qu'en fait, ils ont toute la journée des véhicules devant leur portail. Ils appellent la police vient, demande, quand la personne est encore dans le véhicule, à sortir. C'est vrai que ça crée des tensions énormes. Aujourd'hui, moi j'ai rencontré le directeur de la clinique du Parc, j'ai rencontré le directeur du CHU. Le CHU bon, estime que le déficit de places est simplement 200, alors que moi il est plutôt à 800 ou 1000 places. La clinique du Parc, c'est un petit peu pareil. Ils ont une friche végétale qu'ils n'entretiennent pas en plus. Ils ont un parking du personnel qui n'est pas suffisant pour leur personnel. Il y a des personnes qui se garent en dehors, donc qui se garent à Marcel Pagnol. À un moment donné, il fallait agir. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas agi du jour au lendemain comme ça. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais mettre des bandes jaunes de partout. C'est simplement qu'on a consulté, bien entendu, les habitants du quartier. On les a eus en commission, en réunion de quartier. On en a parlé. On avait fait un test à une époque, c'était dans les années 2015-2016. À l'époque de notre cher ancien adjoint Roger Brunin, et on avait fait des tests en fait avec ces bandes jaunes sur le quartier du Charpenin, et on avait fait donc une bande jaune qui était respectée. Donc finalement, on s'est dit cette zone, elle avait un impact. C'est pour cette raison qu'on a décidé en fait de tracer ces bandes jaunes. Donc bien entendu, il va falloir renforcer la signalétique. Aujourd'hui, on a une rue Honoré de Balzac. Qui, malgré les bandes jaunes, est complètement squattée. Donc, les gens se garent n'importe comment. Ça crée des gros problèmes de circulation et de dangerosité par rapport aux différents carrefours. Donc, c'est pour cette raison que cette décision a été prise. Et on a fait dernièrement une autre réunion un peu dans ce quartier où les gens, en fait, étaient très contents. Étaient très contents. Donc, ce n'est pas une décision qui a été prise à l'emporte-pièce. C'est une décision qui m'apparaît sensée pour lutter contre du stationnement sauvage, et il y en a partout. On en a remis dans le quartier du Charpenin, et ça a déjà un certain impact. Il y a juste en rue Honoré de Balzac, on a un petit peu de mal à faire obtempérer les gens de la clinique du Parc. En fait, ils ont un parking, ils ne savent pas forcément qu'il est en partie gratuit, c'est un peu comme à l'hôpital. Et voilà, il va falloir qu'on prenne la main sur pas mal de choses. Mais voilà, si on ne prend pas la main, si on laisse faire aller les choses, la vie à Saint-Prier va être insupportable. Voilà pourquoi on a tracé des bandes jaunes. Prendre en fait les bandes bleues, parce qu'à la terrasse, il y a des stationnements, on va dire, avec le disque, donc de 1h30, qui permettait d'avoir une certaine fluidité pour les commerçants. Cette zone bleue, elle n'est plus respectée depuis je ne sais pas combien de temps. On va à nouveau la tracer parce qu'elle manque de traçage, elle n'est pas assez visible, et on va faire appliquer donc les 1h30. On a consulté tous les commerçants, il y en a juste un sur la dizaine de commerçants qui n'est pas d'accord, mais pour eux, ça va leur permettre d'avoir certainement plus de clients parce que les gens vont pouvoir s'arrêter et éviter que ce soit des gens qui posent leur véhicule soit le matin pour aller prendre le tram, soit éventuellement des habitants qui ont des garages mais qui préfèrent en fait laisser leur véhicule dans la rue. Voilà pourquoi ces mesures ont été prises.
Pour vous répondre, M. Servant, la loi est appliquée tous les jours. On reçoit bordereaux de service de la police municipale qui font plus de 10 pages avec toutes les contraventions sur ces fameuses lignes jaunes.
Non, je ne remettais pas en cause le bien fondé de la décision, simplement la forme. On aurait pu en débattre avant. Du tout. Sur les problèmes de stationnement, on les connaît évidemment. Et c'est sûr que dans certains quartiers, ce n'est pas la bonne chose qui sera dissuasive. Donc il faudra sanctionner. On est bien d'accord.
Merci. Est-ce que vous avez d'autres prises de parole? Eh ben, on va pouvoir partir en vacances. Non, pas tout à fait, parce qu'il reste encore quand même pas mal de choses à faire. On vous donne rendez-vous pour le 14 juillet. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'informations par rapport au feu d'artifice qui sera tiré en fait sur le toit du NAC pour cette fois-ci. Et on attend en fait des nouvelles de la préfecture qui, j'espère, nous permettra en fait de tirer le feu d'artifice sur le toit du NAC. Mais ce n'est pas encore certain, compte tenu de l'épisode de canicule et de sécheresse que toute la région stéphanoise subit. Voilà, eh bien, bonnes vacances pour ceux qui partent, bon courage pour ceux qui restent, et à très bientôt pour un nouveau conseil municipal. Merci à vous.